écoutez Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Jérôme Sorel. Jérôme, que vous pouvez également retrouver chaque lundi à 14h dans son émission. Vous l'entendez cette fois au micro, il présente Rayon Libre, une émission que ce passionné de vélo nous concocte chaque semaine. Et puis lui, il en fait vraiment une par semaine, pas comme moi. Mais bon, cette semaine, on est là, et on est là pas avec n'importe qui, puisque c'est ni plus ni moins que le chanteur Peyo Serbial, chanteur basque, quand même un petit peu connu, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Peyo.
Bonjour à vous et bonjour à vos collègues.
Et aux auditeurs aussi, qui vous écoutent. Alors, les auditeurs qui vous écoutent et qui vous connaissent, on va bien sûr parler de votre carrière, on va parler de vos engagements et on va parler de votre musique. Mais avant toute chose, l'information du jour, c'est pour ceux qui vous connaissent et qui vous aiment ou qui ont envie de vous découvrir, vous allez vous produire au Francofolie de La Rochelle cette année, donc en 2026, ce sera le 12 juillet à 15h30 à la salle bleue de la Coursive. Là, vous donnerez un concert et un concert qui est dans le cadre très particulier d'une série qui est consacrée aux langues régionales. Et donc, vous, c'est le Pays Basque, comme on sait, que vous mettez en avant dans votre œuvre. Et donc, du coup, le Festival de La Rochelle a décidé de vous laisser vous y produire pour porter votre voix et la voix du Pays Basque. C'est bien ça ?
Oui, en fait, pour tout vous dire, j'y suis déjà passé dans des précédentes éditions. Mais là, c'est une nouvelle direction depuis quelques années, puisque c'est Gérard Pont qui est le directeur, ainsi que le directeur du Printemps de Bourges et patron de Morgane Productions, qui fait aussi des éditions de télévision. Lui, il est breton d'origine et donc... cette année, ils ont fait un focus particulier sur, moi j'appelle ça des langues du monde, bon, langues régionales, des langues du monde, et donc il y a deux artistes bretons, et ça c'est la veille et l'avant-veille, et nous on est le 12 juillet, en fait, l'ouverture des portes est à 15h, il y a un duo de femmes occitanes qui s'appelle Cocagne, que j'aime beaucoup, avec qui on s'est déjà trouvé sur scène il y a plus d'une dizaine d'années, et nous on... C'est en suivant, c'est à partir de 16h, 16h30, si j'ai bonne mémoire, voilà. Alors, c'est un focus super intéressant, parce que c'est dans la composition du monde, ne pas oublier aussi qu'il y a d'autres peuples, d'autres envies de vivre, d'autres envies de respirer. Donc, nous, on est très heureux d'être là, voilà.
Bien sûr, et puis alors le basque, c'est quand même une langue particulière, c'est une langue vraiment très originale. Je crois qu'elle ne fait pas partie des langues indo-européennes, enfin, c'est vraiment une langue atypique, voilà, c'est une langue spécifique. Et c'est aussi partie d'une véritable intégrité et originalité. Voilà, donc c'est important de connaître, c'est aussi le Pays basque, c'est aussi un endroit où les gens sont accueillis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent l'étranger, qui viennent d'Afrique, qui traversent la frontière franco-espagnole et qui restent donc dans le Pays basque et qui sont accueillis. Je crois que c'est parce qu'on est fort de sa culture aussi qu'on peut s'ouvrir aux autres. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu une démarche qu'à travers votre musique, vous appuyez.
Oui, ensuite, le sujet que vous évoquez là, c'est un sujet... assez crucial, notamment pendant un certain nombre de temps, il y a une politique, si vous voulez, assez crispée en France qui vise à expulser les gens. Et donc, la mairie de Bayonne avait été... il y avait une association qui préconisait l'accueil. Le préfet n'était pas très favorable et le maire s'était porté caution. Et il y a eu même une course. Vous savez qu'il y a une course...
Oui, bien sûr. On en a parlé ici.
Où les gens se passent un témoin. Et là-dedans, dans la... Les gens qui sont passés, pour nous, c'était la frontière de la honte. En fait, il y a des migrants qui sont passés, j'aime pas ce terme-là, mais des réfugiés, quoi, en fait. Ouais. Et donc, ces gens-là, il y a des gens qui ont accepté d'être jugés. Et puis bon, nous, on est un peuple... Vous parlez de la langue basque. La langue basque est une langue pré-indo-européenne. Toutes les langues romanes, qui sont donc, le français, l'italien, le latin, l'espagnol, le portugais, etc., ça en fait beaucoup quand même, disent « je vois la montagne ». Et le basque dit « montagne, la, vois, je ». Donc, si vous voulez, en termes de syntaxe, d'ordre des mots, c'est assez bizarre pour les gens. Mais enfin, c'est un ordonnancement du monde qui respecte en fait une sorte de logique qui fait que vous ne naissez pas tout seul. Il y a avant vous des gens, il y a des lieux, il y a des êtres humains, il y a des terres, des espaces. Et nous, on arrive là et puis on essaie d'apporter notre petit caillou, d'autres des grosses pierres. En fait, on essaie de composer avec le monde. C'est un peu comme ça.
Oui, c'est assez beau. Effectivement, j'ignorais cette inversion comme ça, enfin cette remise en ordre de la vision du monde qui intervenait à travers la langue basque. Quand est-ce que vous avez appris le basque? Quel est votre rapport à cette région?
Moi, j'ai appris mes parents étaient basques d'origine, mais ils font partie, donc ils ont connu la guerre. Moi, je suis né dans les 30 Glorieuses, et à cette époque-là, en fait, la langue basque n'était pas une langue valorisée. La langue de la réussite, en fait, c'était la langue française. Et ma mère, ayant bien une ville, une petite ville en dessous qui s'appelle Mollion, faisait 5000 quelques habitants dans les années 50, 55 par là, et après aujourd'hui elle s'est vraiment effondrée, elle fait même pas 3000. En fait, le village après s'appelle Vieux-Dos, donc Mollion, Vieux-Dos, et entre les deux il y avait un pont sous lequel passait la voie ferrée. Et en fait, ma mère m'avait dit la langue basque ne se servira pas plus loin que le pont de Vieux-Dos. C'est-à-dire qu'il y avait une fonction très utilitaire de la langue basque, une fonction quasiment familiale. Vous désignez des concepts très utilitaires, donne-moi le pain, je veux, etc. En fait, nous, on nous a pas validé cette langue-là parce qu'elle n'avait pas de fonction sociale et de fonction de la réalité. Et moi, j'ai découvert la langue basque après, à l'âge de 14-15 ans, avec des collègues qui étaient avec moi à l'école, qui parlaient le basque. Après, il y a différentes variations suivant les provinces, mais la structure est toujours la même. Montagne, la voie juste, ça se dit partout. Entre Bilbao et Mollion, ça se dit, sauf qu'après, il y a des lexiques. Un lexique différent, un petit peu différent. Bon. Et moi, j'ai décidé un jour, grâce à une chanson que j'ai entendue, c'est par la musique, en fait, que je suis rentré dans la langue. J'ai décidé à 18 ans de faire un premier stage. Et c'était un stage d'un mois, 6 heures par jour, pour le soir des conférences. Et puis après, j'ai continué avec des poètes, avec des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont tenu la main, qui ont fait en sorte que cette langue-là puisse être une langue d'expression. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de... La langue basque est rentrée dans la société, c'est aussi un gage de professionnel pour obtenir des postes, etc. Puis bon, on a aussi le Pays Basque Sud, côté l'ancien Sébastien, Bilbao et Vitoria, qui sont les trois provinces, un peu l'une étant à part pour le moment, et qui sont aussi une force politique qui impulse aussi cette dynamique-là. Quoi. Voilà, ça c'est important, et puis bon, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses, et il faut être confiant là-dedans, dans cette évolution. Je dirais que c'est une évolution culturelle en même temps. Voilà, pas simplement que politique, une évolution culturelle, savoir qu'il y a une langue et que cette langue, il faut qu'elle soit parlée comme les autres, pas plus, mais pas moins en tout cas. Voilà.
Et du coup, quand on décide de se lancer dans la musique, ça fait des années et des années hein, que vous chantez avec cette voix si particulière qu'on entendra dans cette émission. Choisir le basque pour chanter, c'est aussi un engagement, parce qu'on dit que ce n'est pas la langue de la réussite, mais ce n'est pas non plus la langue universelle comme peut être l'anglais, par exemple, où quasiment toutes les chansons sont en anglais. C'est aussi un engagement que de choisir le basque pour faire de la musique et pour chanter.
Oui, c'est une façon... vous savez, il y a un poète basque qui date des Incunables, le début de l'imprimerie, en 1545, proche de Saint-Jean-Pied-de-Port, il disait « Langue basque va dehors, va sur la place, va de par le monde ». Donc, il y a un livre qui est à la Bibliothèque nationale à Paris, qui a été déplacé sur la bibliothèque à Bayonne pendant quelques temps. Les Basques, enfin l'original se trouve à Paris. Et donc les Basques ont proposé qu'il soit ramené à Bayonne. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait ce livre-là puisse être partout dans le monde, en fait. Parce que si vous allez à la Bibliothèque nationale, vous trouverez ce poème-là qui s'appelle « Euskara Dialgadi Kampola Plazara Mundura ». En fait, le message, il est là. C'est une langue de véhiculaire. Je voudrais simplement raconter une anecdote, si vous me permettez, Eugénie. C'est qu'un jour, il y a une émission avec Michel Drucker où il y avait Leonard Cohen qui passait. Et Leonard Cohen était accompagné de deux choristes. Ils étaient assis à une table. Et sur l'émission de Michel Drucker, qui était je ne sais plus laquelle, France 2 avait trouvé utile de mettre en bas de l'image ce qui était une traduction, mais plutôt une adaptation poétique, en fait, littéraire du texte de Leonard Cohen, qui est un grand poète duquel je suis fanissime, si ça peut se dire. Dans la même émission, passait après David Hallyday, qui chantait aussi en anglais, et France 2 n'avait pas trouvé utile de traduire cette chanson-là. Ça donne une idée un peu de l'état des choses, c'est-à-dire pourquoi les gens chantent en anglais au motif qu'il y aurait des choses qui sonneraient davantage. Bon, tout ça, c'est beaucoup de marketing, beaucoup de business. Alors après, c'est une langue utilitaire, c'est une langue véhiculaire qui est très très importante dans le monde. L'espagnol aussi, le chinois, il y a plus d'un milliard de gens qui parlent le chinois, on pourrait aussi imaginer ça. Moi, je reste très très prudent là-dessus, et la langue basque chante très bien. Et puis après, je pense que c'est aussi une question de volonté, de sourire à la vie, et puis de hymne à la diversité, quoi. Je crois que c'est ça qui est très important, en fait.
Eh ben, je vous propose qu'on écoute tout de suite un premier titre que vous m'avez fait passer. On va vous écouter. Alors, pardon, mais je vais sans doute l'écorcher. On va écouter Kiss Me, c'est bien ça?
Alors, ça s'appelle Kiss Me.
Kiss Me. Et ça veut dire quoi?
Alors, Kiss Me, c'est une légende basque, en fait. C'est un jour, alors, il y a un poète qui est un monsieur qui travaille sur la mythologie, qui s'appelle José Miguel de Balandiaran, décédé aujourd'hui. Alors, c'est dans un village, en fait. Sur lequel village les gens, donc il y a une sorte de sage, un peu le chef du village, et puis le chef du village regarde le ciel et puis s'inquiète parce qu'il y a des visions un peu particulières, et puis il dit Kishmi est arrivé, et en fait c'est la fin de notre civilisation. Et Kishmi, ça représente le Christ, et ça signifie que toute la... Parce que les Basques ont été polythéistes jusqu'à l'an 1000, et à partir de... Enfin, tout le syncrétisme religieux, c'est-à-dire la fin de... On adorait la terre, les arbres, etc., la pluie, enfin voilà, et donc un jour, et puis on est passé par là, la religion monothéiste, en fait, catholique, et donc ce prêtre-là dit Kishmi est arrivé. Alors Kishmi, ça désigne le Christ, mais ça signifie le singe. Alors c'est significatif d'une forme d'humour assez pertinent pour désigner ce qui va être la fin de notre civilisation. Allez, je suis là.
D'accord, on écoute tout de suite et on se retrouve juste après.
Merci.
Oh,
Vous écoutez toujours Cause Commune 93.1, c'est Liberté sur Parole. Et à l'instant, c'était une chanson intitulée Kiss Me, qui est extraite de l'album de Peyo Serbiel qui s'appelle Naïs. Et alors, on n'a pas entendu que votre voix, Peyo Serbiel. Il y a d'autres chanteurs et chanteuses dans ce morceau. Il y a notamment Renaud, qu'on a reconnu, et Nadine Rosello. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette belle collaboration.
Oh bah, c'est assez simple. J'ai rencontré en fait Renaud sur RTL à l'époque, quand j'étais chez Universal. Et j'ai pour Renaud une tendresse particulière, parce que c'est, je dirais, le seul, en tout cas le premier, quasi le seul, à avoir des engagements, je dirais, assez iconoclastes dans le concert. Moi, je ne rentrerai pas dans les histoires personnelles, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai envoyé un petit SMS, c'était son anniversaire-là, j'ai une tendresse particulière, parce qu'il a des combats sur, notamment, ses langues, etc. La première question, la première remarque qu'il m'avait faite sur cette émission-là, c'est en étant dans les loges, comment vont les ICACHTOLA, en fait? Comment vont les écoles qui sont se font merci? On avait parlé de ça, puis on est resté, je dirais, en contact. Et quand je suis sorti, parce que c'était un disque que j'ai fait après avoir passé du temps en prison, je voulais m'inviter. Et donc j'avais écrit par rapport à ce texte que je vous ai développé tout à l'heure, sur le débat entre le polythéisme et le monothéisme, j'ai écrit ce texte, et qui était significatif aussi d'un monde en mutation. Pour vos auditeurs, je leur conseille de lire le livre de Eduardo Galeano, poète uruguayen, qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique du Sud », où il travaille bien sur tout ça, le monothéisme et le polythéisme. Et donc, je voulais inviter Renaud, en fait, parce que je voulais qu'il soit dans cette version du changement du monde. Alors, je sais qu'il n'a pas une voix de Pavarotti, donc j'ai essayé d'écrire une musique qui soit un peu à la hauteur. Donc, on a travaillé, on était à Paris, puis on a enregistré ça, et c'était une histoire assez magnifique. En plus, ce disque s'est fait avec un studio mobile, on s'est promené, en fait, voilà. On a enregistré ça dans des différentes maisons, différents espaces entre le Pays Basque, côté de Toulouse, etc., etc.
Peut-être un mot sur Nadine Rosello aussi, qui, elle, pour le coup, j'ai découvert cette voix qui est assez fascinante.
Oui, oui, c'est une chanteuse italienne, enfin, qui est d'origine italienne, de Corse, et qui fait aussi comme ça du chant, alors ça passe du chant un peu, pas que du chant profane. Et donc, je l'avais entendue dans un concert à Toulouse, et je souhaitais qu'elle soit aussi là, donc elle est venue sur cet album. Il y a d'autres titres sur lesquels elle est, il y a 3-4 titres, etc. Et donc c'est une vraie, 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 vraie belle, je dirais, collaboration et rencontre sur au moins ce plan artistique, voilà.
Alors, vous avez évoqué, Peyo Serbiel, votre passage en détention. C'était en 2004 que vous avez été placé en détention provisoire. Alors, vous n'êtes pas un criminel, je rassure tout de suite les auditeurs. Écoutez un peu quand même pourquoi on peut aller en prison en France au XXIe siècle. Eh bien, vous aviez tout simplement hébergé des gens qui étaient venus vous demander s'ils pouvaient dormir chez vous. C'était des membres de l'organisation séparatiste BAC. Alors, je ne sais pas prononcer le mot non plus, mais c'est Euskadi, c'est ça?
C'est ETA, en fait. Hein. Selon la police dit que j'ai hébergé chez moi, j'ai autorisé des réunions de la direction d'État militaire, en fait. Bon, il se trouve que moi, je n'ai jamais caché ce que je pense, je suis favorable à un processus d'émancipation du Pays Basque, et je veux dire, je rappelle que j'ai mon papa qui a été dans la résistance, et qu'en 1944, ils ont forcé avec des collègues à lui un barrage de l'armée allemande du côté de d'Orthez, et qu'il a pris une balle à 10 cm du cœur. Les Allemands cherchaient un aviateur anglais, et ses collègues l'ont laissé sur le bord de la route, et les Allemands, pensant qu'il était mort, sont partis. Donc c'est grâce à quelqu'un que je ne connais pas que j'ai eu, je dirais, la chance de connaître mon père. Après, ce sont des interprétations. Moi, je reste, je veux dire, il y a eu pendant une certaine période au Pays Basque des manières de combattre lesquelles, moi, je suis pas, j'ai pas de, pas que j'ai pas d'avis. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, il y a des gens qui ont choisi de prendre des armes. Moi, je suis pas favorable à cette stratégie-là. Aujourd'hui, ça s'est arrêté, c'est heureux. Mais je n'ai pas, en fait, mon attitude à moi, c'est une attitude proprement humanitaire. Je voudrais rappeler que la police, ils ont subtilisé, ils m'ont piqué en fait une quarantaine d'arrangements, de cassettes, en fait, de d'enregistrement du théâtre de la ville, etc., de concerts. Ils ont fait travailler quelqu'un du Pays Basque ici pour savoir s'il n'y avait pas des incitations à appel du terrorisme. Alors moi, ce que je sais, c'est que je suis au courant qu'en Pays Basque, il y a des gens de la gauche indépendantiste qui ne condamnent pas la violence et que, de facto, que ce soit des partis politiques, des organisations de jeunesse, mais aussi il y a eu des mairies qui ont collecté de l'argent pour favoriser le développement économique et culturel, qui étaient à la gauche indépendantiste, qui, dans la mesure où ils ne condamnaient pas la violence, ont été accusés et assimilés à des organisations de terrorisme. Notamment le parti politique Batachouna, qui était comme parti politique, en fait. Et tout ça, pourquoi ? C'était pour englober tout le monde. Alors moi, les gens que je reçois, que je suis sensibilisé, censé recevoir, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens qui sont effectivement dans la lutte armée, mais je ne sais pas, c'est pas moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat.
Voilà, vous m'aviez dit à l'époque, quand on en avait parlé sur une autre radio, dans cette même émission, vous m'aviez dit, moi, quand des amis me sonnent à ma porte et me demandent s'ils peuvent venir chez moi, je ne leur demande pas leurs papiers. Ben, moi non plus, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous quand même.
Oui, c'est ça, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que il y a une façon, aujourd'hui, heureusement, tout ça s'est arrêté. La gauche indépendantiste, elle est dans les prochaines élections qui vont se passer, elle risque d'accéder au pouvoir. Donc moi, je suis plutôt heureux de ça. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne m'appartient pas, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, pour poser des questions. Quand ils viennent chez vous, ils vous disent pas « je suis responsable de toutes les caches d'armes ». Bon, quand il a fallu organiser le désarmement de cette organisation, puisque la majorité des caches d'armes étaient du côté français, le gouvernement de Hollande, bon, ils ont laissé, enfin, ils ne se sont pas très engagés, en fait, voilà. Donc, il a fallu que ce soit aussi la société civile qui convoque, effectivement, la police, des mineurs, tout ça. Donc, il y a une vraie responsabilité de ce que nous sommes, les Basques, pour dire, voilà, il y a des gens qui ont validé des procès de ce type-là, et je répète, ce n'est pas ma manière de me battre. Et au Ferré, il disait que les armes et les mots, c'est pareil, ça tue pareil. Moi, je préfère, dans ce cas-là, les mots, et puis c'est pas pour tuer en général. C'est pour nous inviter au réveil, surtout, et à nous secouer le cerveau, parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais au-delà de ça, je veux dire que c'est un constat, et c'est pas à moi, je suis pas en capacité de juger. Si vous me brûlez pas les livres, vous me cassez pas le piano, vous êtes bien chez vous. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à partir de là, voilà. Moi, j'ai eu une éducation qui est basée là-dessus. Mon papa, il a pris une balle, et je sais que tout son bras gauche était naze, papa, tout le temps de sa vie. Et c'est un poids dans l'histoire, c'est un poids dans un process d'éducation, et c'est important. Alors après, moi je me suis battu quand on voit la France qui a accueilli des tas de chefs africains qui étaient extrêmement corrompus, qui les a couverts pour des intérêts, ça me fait sourire, cette espèce de politique à géométrie,
Oui, plus que variable, on va dire. Oui. Voilà. Mais alors, en l'occurrence, pour raconter quand même l'histoire, moi, quand on en avait parlé ensemble, vous aviez passé pas mal de temps en prison, pour le coup, la violence que vous avez pu y subir, enfin, vous êtes pianiste, hein, vous vous servez de vos mains pour composer, pour jouer d'instruments de musique, et vous avez eu peur à un moment de plus pouvoir le faire parce que les conditions de votre arrestation, en fait, on vous a entravé les mains au point de plus vous permettre de vous en servir correctement, au moins pendant un moment. Donc, et vous me dites qu'on vous a volé des arrangements, on vous a volé des archives, etc. Quand même, vous avez payé le prix fort pour une condamnation qui a été décidée. On vous a accusé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, malgré tous les soutiens et toutes vos dénégations et tous les soutiens innombrables hein, que vous avez reçus de plein de monde, du monde de la musique, du monde politique, je pense à Noël Mamère par exemple, Maxime Le Forestier pour la musique, jusqu'à Monseigneur Jacques Gaillot dont on connaît aussi les engagements, enfin voilà, beaucoup, tout le monde était derrière vous. Néanmoins, la justice d'État a fait son travail, mais vous avez quand même payé le prix fort pour cette fidélité à une humanité et à un engagement de résistance et puis de liberté. C'est-à-dire, je reçois qui je veux chez moi.
Oui, je crois qu'il y a ça, mais je crois aussi que, ben, je veux dire, nous sommes des gens têtus. Et quand je dis, je vais prendre un exemple contemporain, il y a 80 enfants là, qui ont passé, donc qui sont issus des ICASCO, ils ont passé l'épreuve des mathématiques en basque. Et le ministre de l'Éducation nationale leur a dit « Ok, mais pas avant 2020 ». Ils ont dit « Quoi qu'il arrive, on va passer cette épreuve-là ». Donc aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous prendre un autre exemple, et ça veut dire que notre souhait d'émancipation, mais après moi je dis, de toute façon, au nord, il y aura toujours la France, et au sud, il y aura toujours l'Espagne. Le problème, c'est pas de dire « On tue les gens, on est contre les gens », non, il s'agit de dire « Voilà, nous avons peut-être, nous, les meilleures solutions pour le territoire sur lequel nous vivons. » Alors après, est-ce qu'on est les meilleurs ou pas les meilleurs? Moi, c'est pas la question. Moi, je dis, moi, tous les jours, mon intérêt, c'est d'apprendre. J'ai un ami qui est donc conseiller départemental de la gauche indépendantiste, sachant qu'elle est dans le PNL Atlantique, elle est à droite. Et donc, il y a eu une motion et qui a été élue, qui a été accordée à l'unanimité pour que ces élèves puissent passer l'épreuve en langue basque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus qu'un consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, si vous voulez, alors qu'à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, enfin, toutes ces choses-là étaient mal vues, mais vraiment très mal vues, et on vous mettait au banc de la société. C'est-à-dire que vous vouliez apprendre le basque de manière délibérée, etc., ce que nous avons fait, en fait. Et bien, aujourd'hui, même des élus de droite se disent, on va pas aller contre ça, parce que c'est un fait acquis, ce sont des choses, et on n'a pas tué des gens pour ça. Enfin, je veux dire, les gens qui continuent à se battre dans ce territoire, c'est aussi pour, voilà, puis après on inspire des gens. La course pour la langue basque, ben, ça existe en Bretagne, ça existe en Occitanie. Il y a une société d'investissement capital risque qui marche sur la... Il y avait deux banques principales il y a 40 ans qui, sur 15 euros, il y avait 11 euros d'épargne qui partaient à l'extérieur, et les Basques, un jour, ont dit basta. Et donc, il y a une société capital risque comme ça qui a été créée en Pays Basque. Moi, je suis un tout petit actionnaire parce que ça crée des emplois, etc. Mais les Corses nous ont copié le même système. Donc, ça veut dire qu'on est aussi capable dans ce pays. Effectivement, il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui sont morts, etc. Et moi, je le regrette, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je suis pas contributeur là-dedans. Je dis simplement qu'on est aussi en capacité de montrer d'inviter en tout cas des gens à travailler ensemble. Pourquoi pas essayer de trouver ensemble des solutions, parce qu'il n'y a que comme ça. Il n'y a pas, moi, la verticalité, ça ne m'intéresse pas en matière politique.
Oui, et puis,
c'est l'échange.
Ce que vous dites, c'est un petit peu cet adage qui reprend tout son sens dans un contexte géopolitique compliqué, c'est vivre et travailler au pays, tout simplement, en fait. C'est rester sur sa terre, y vivre en circuit court, le plus court possible, pour toutes les bonnes raisons qui nous sautent aux yeux en ce moment. C'est assez évident, en fait. C'est aussi une question de bon sens, tout simplement.
Oui, enfin, surtout aujourd'hui, mais en fait, donc là, les marqueurs qui nous reviennent à travers la figure, on l'a bien vu en période de Covid avec les masques, à travers les trucs, cette espèce de géopolitique mondiale où les gens qui sont, on le voit maintenant à gauche, ce qui se passe, toutes les enquêtes qui montrent que c'est des fonds prédateurs qui achètent les entreprises, qui demandent tant de pourcentage de dividendes, etc., et qui mettent les entreprises sous pression. Ça va dans le sens, ça va pas dans le sens de la vie, tout simplement. Ça, l'important, c'est d'arriver à ce que là où on est, on soit heureux. Il faut que la dimension du plaisir, même quand on va travailler, puisque c'est aussi une question obligatoire pour manger, je veux dire, qu'on puisse être heureux dans les choses que l'on réalise. Et ça, je veux dire, ça ne passe que par la capacité à régir le monde dans lequel on est. Donc ça veut dire que c'est des décisions politiques, des décisions économiques. C'est aussi le fait de parler aux voisins. Comment on fait? On peut passer des périodes compliquées, des périodes difficiles. Mais en tout cas, on sait très bien que si on veut se battre, on y arrive. Moi, c'est le sens de l'histoire de ce peuple ici que j'ai apprise. Certes, avec mon père, mais mon père n'était pas basquisant, même s'ils ont bougé des lignes. Ma mère n'est plus ou moins devenue. Et je veux dire qu'au-delà de ça, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'on arrive... humblement, parce qu'il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas... L'intérêt, c'est de la journée, c'est de se coucher moins bête. Enfin, je suis dans cette démarche-là tous les jours. Et dans le sens politique, économique, historique, etc., il y a plein d'éléments. Il n'y a rien de plus insupportable que cette espèce d'enseignement ex cathedra où vous êtes... Il y a des gens qui vous disent « Moi, je sais, toi, tu ne sais pas ». Ça, en général, ces gens-là, je les fous. Et on est dans une démarche comme ça en France, malheureusement, qui ne nous met pas assez ensemble, assez en chemin pour travailler, quoi, je veux dire, et pour essayer de trouver des solutions. En Pays Basque, il y a des choses comme ça qui sont assez vitalisantes, et vous parliez tout à l'heure des migrants, je veux dire, enfin, j'aime pas ce mot-là du tout, des réfugiés, ce sont des réfugiés politiques, de toute façon, des réfugiés économiques. Le Pays Basque a été là aussi précurseur, et il y a des gens qui ont été en prison pour faciliter dans cette course-là, le fait que les migrants passent, etc. Et que, non, la solidarité est importante. C'est ensemble qu'on doit trouver les solutions. Et c'est pas en mettant les gens dans les prisons, ça sert à rien, ça fait, voilà quoi.
Évidemment. Et on va écouter encore un morceau de musique. Alors encore une fois, je vais sans doute le bafouiller. Le titre, c'est Clocoblariac.
Ah ben, super.
Bon, j'ai mis le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Peyo?
Alors Clocoblariac, c'est un. Il y a ça va vous parler parce qu'il y a en français ce qu'on appelle des joutes oratoires.
Ah.
Donc c'est des joutes oratoires en basse. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui se retrouvent sur un moment donné, et donc sur le champ, hein, ils se doivent d'improviser sur des rythmes et des rimes imposés. Donc on leur propose un sujet, et donc c'est des jeux de 4-1, de 8 syllabes, de 13 syllabes, de 14, de 15, et ça c'est un exercice de style très compliqué. Et ce qui est important, c'est que la chute en général de chaque intervenant, c'est une chute qui est assez satirique des fois. Ils se font pas de cadeaux, etc. Mais bon, et aujourd'hui, alors c'est une tradition qui a fait se perdre ici. Et depuis la Renaissance, notamment des castolas, depuis vingtaine, trentaine d'années, il y a des concours, si vous voulez, qui se passent à Saint-Sébastien, où il y avait 15 000, 20 000 personnes qui se retrouvent pour écouter ça. C'est comme une sorte de côté un peu de messe. Enfin, et puis bon, c'est un travail sur la langue aussi. Voilà. Et donc, Clocoblariac, c'est une chanson d'hommage à ces gens-là, qui sont des gens extrêmement humbles et qui travaillent cette langue-là, qui lui font dire des tas de choses. Et je vous dis, il y a des satires souvent caustiques. Ben voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu.
C'est parti, on l'écoute. Merci. voilà, on se retrouve dans Liberté sur Parole, sur Cause Commune 93. On écoutait cette chanson, cette petite battle de rime, de Peyo Serviel. Alors effectivement, je comprends pas les paroles, mais ça a l'air d'être une sacrée battle, avec des rythmes toujours assez originaux.
Oui, oui, après, c'est un poème, un hommage, disons que c'est une sorte de ode à ces poètes et qui sont, suivant la région où ils se trouvent, des aèdes, des fébriles, des faits libres, pardon, etc. Et d'autres, donc, mais il y a le sens commun qui est la poésie, l'écriture et l'imaginaire et la capacité à s'émouvoir et puis à toucher au-delà du réel. En fait, je veux dire, la poésie, elle a ce sens-là et elle est en même temps, elle invite, en fait. Elle est pas là pour enfermer les gens, elle est plutôt là pour ouvrir des espaces et pour ouvrir des inspirations. Et l'intérêt, c'est de lire et de les relire, en fait. C'est ça. Voilà.
On sent que vous en êtes nourri, en tout cas. Oui, dites-moi.
Pardon?
Je dis, on sent que vous êtes nourri de poésie. Et c'est justement, c'était un peu ma dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Alors, il y aura bien sûr, il y a toujours cette échéance joyeuse du 12 juillet au Francofolie de la Rochelle, où on pourra vous entendre et vous voir sur scène. Mais j'avais envie de savoir un petit peu sur quoi vous travaillez en ce moment, quels sont vos prochains projets, Peyo Serviel.
Alors moi je vais clôturer là-dessus, si vous voulez bien, c'est que le monde de la musique est en panne et les modèles que nous avons, que l'on subit aujourd'hui sont des modèles qui contribuent à un système de négrier, d'exploitation de la matière intellectuelle, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur la fin du disque, du streaming, etc. On est arrivé à un système cadencé, à faire en sorte que tous les créateurs en musique, ben, ils touchent plus rien. C'est-à-dire que d'un disque, vous perceviez des droits de la maison de disque, vous perceviez pour chaque copie des redevances. On est passé au streaming qui distribue des cacahuètes. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez 1 million de vues chez Spotify, c'est avec de la publicité, c'est 900 euros. Eux, ils disent 5 000. C'est 900 euros. Et si vous avez un album premium, c'est 1300 euros. Donc, c'est organiser un système de négrier, je le dis. Et aujourd'hui, on est sur des batailles ici par rapport à l'intelligence artificielle, mais ça touche aussi, bien évidemment, les journalistes.
Oh,
ça
oui.
touche les gens de théâtre, la poésie, où les entreprises vont prendre ça, l'utiliser. Et nous, on demande effectivement une présomption d'utilisation. Donc, il y a eu une loi qui est passée au Sénat, que M. Attal et tout ça, son groupe, dans une niche parlementaire, ils ont éclaté le truc, il devait y avoir 110, ça devait être la gauche, je crois, républicaine qui devait faire passer ça le 12 juin. Ils ont posé 110 amendements pour en faire en sorte qu'on voit très bien où ils se positionnent. Nous, on est en train de travailler au Pays Basque sur, ou parler du circuit court, sur une nouvelle maison d'édition qui a deux axes, en fait, qui est une librairie musicale, mais alors là, nous, on est consacré essentiellement aux artistes émergents. Donc, librairie musicale, c'est pas très original. Mais librairie musicale consacrée aux artistes émergents, ça vous donne un peu l'idée du travail qu'il y a à faire. Et nous, donc, on est aujourd'hui constamment au travail avec notamment la Chambre de commerce de Bayonne pour leur proposer des musiques d'attente téléphonique, des musiques de films, des musiques où il y a enfin une exposition des artistes et d'autres aussi moyens de rémunération et de valorisation de ces entreprises à travers ces musiques-là. Et le deuxième axe sur lequel, pour le moment, on n'a pas réussi à prospérer, c'est la création d'un espace en Pays Basque qui serait un plan Marshall pour la scène. C'est-à-dire qu'il y a 158 communes et que 30 communes programmeraient 60 dates dans l'année, dont 10 pendant l'été. Ça permettrait quoi sur ces 32 communes? C'est-à-dire quand il y a un artiste qui sort un album, il puisse avoir 10 dates préachetées par les villes et que pendant ce temps-là, il rôde son concert de façon à pouvoir le... Donc, ce que je nous dis là, en fait, c'est qu'il faut aujourd'hui inventer de nouveaux modèles pour arriver effectivement à ce que la poésie, le théâtre, l'art puissent continuer à prospérer, continuer à se faire entendre. Et ça, ça dépend de notre énergie commune. Et je veux dire, il y a des combats qui sont des combats politiques aujourd'hui et où il faut être extrêmement lucide. Ce sont des combats mondiaux sur la façon de faire. Voilà. Ça, nous, on est là-dessus depuis un certain temps. On arrive, pas à pas. L'autre jour, on était reçus en tant que maison d'édition ICEAC au 300e anniversaire de la Chambre de commerce de Bayonne. Ça fait des mois, parce que ici, majoritairement, les artistes 9,5 sur 10 sont de statut amateur. C'est-à-dire que la musique, tout ce qui est de domaine artistique, on vous dit, mais vous faites quoi comme travail? Je fais de la musique. Ah oui, mais c'est quoi votre boulot? Donc après, il va falloir que vous annonciez autre chose. Donc ça, ça vous dit, c'est le mal d'une société, en fait. Alors c'est pas qu'en Pays Basque, mais en Pays Basque, le marqueur, il est très très fort là-dessus. Donc ce sont des combats homériques que nous, alors on fait pas que ça, bien évidemment, mais ce sont des combats très très importants pour faire en sorte que les artistes qui veulent être artistes sur le temps, qui est un travail à temps plein, puissent le faire. Donc on a besoin de tous les espaces, toutes les réflexions, etc. Et malheureusement, on n'est pas, mais ça avance. On reste fondamentalement conscient. On est là-dessus. Après, moi, je travaille sur d'autres espaces musicaux. Je travaille aussi avec Patrick Bébé, qui est mon pianiste accompagnateur de longue date, qui lui a joué avec Papa Wemba, Maury Canté, Myriam Makeba, Charlie Couture, Peter Gabriel. C'est un compagnon de voyage depuis des années et des années. Il sera à La Rochelle avec nous, bien évidemment. Je ne vous fais pas l'affront de vous parler de Francis Bébé, qui est son
Mais
papa,
non.
qui a mené toutes les musiques du monde en France. Et Patrick, c'est quelqu'un de... Au-delà de la musique, est un ami et j'adore ce qu'il fait. Bon, et puis là, c'est pareil, c'est rendez-vous, je dirais, intelligent autour de la musique. Voilà.
Eh ben merci vraiment pour tout ça. On se quitte en écoutant un titre que je vais vous laisser dire. Ça commence par Gaztetasunak, c'est ça? Traduction juste?
Gaztetasunak, c'est un titre sur la jeunesse, en fait. La
D'accord.
jeunesse est porteuse d'espoir, de nouveaux chemins, de nouvelles voies à creuser. Et voilà. Donc,
c'est très bien à l'heure où souvent les jeunes sont un peu victimes d'un certain bashing, pour le dire mal. C'est bien de se dire qu'on a confiance en cet avenir que représente la jeunesse. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, Peyo Serviel. Longue vie à vous, longue vie au Pays Basque et puis bon concert pour ce 12 juillet. J'espère qu'un maximum de gens pourront s'y rendre.
Merci et bon courage aussi à votre radio.
Merci, à bientôt.
Bye bye. Gaztetasunak bainera bi, airea nain arabezala. Gaztetasunak bainera bi, airea nain arabezala. Gaua pasatzen di. Maite nauzula zuka gaiteaz, ni ez naiz ale geratzen. Maite nauzula zuka gaiteaz, ni ez naiz ale geratzen. Baizika nere bihoza, ahaz duzu tristatzen. Amodi hori badu da, ez erauzu jabala iruri. Amodi hori badu da, ez erauzu jabala iruri. Itxasoa pasan iro zure gatik iberi. Ez zuen eskribulari.
gone.